Salut à tous et bienvenue dans la No Code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
Bah Bubble, c'est l'outil le plus dur à maîtriser et que toi, en tant qu'agence, les gens ils viennent te voir quand ils n'arrivent pas à le faire. Et en fait, si tu vends du Glide, je pense pas que c'est impossible de vendre du Glide, mais c'est quand même vachement plus dur parce que le trois quarts du temps, l'entrepreneur il va réussir à faire son Glide tout seul. Et en gros, s'il peut pas aller plus loin, c'est pas un problème de il sait pas faire, c'est juste un problème que la tech s'arrête là, entre guillemets.
Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir des épisodes inédits et des ressources exclusives, rejoins le No Code Family Club sur www.nocode.family. Salut Clément.
Salut Simon.
Alors dis-moi tout, qui es-tu ?
Alors du coup, bah, je suis Clément, ça t'as déjà cette partie-là. Je suis Clément Barberoux, je suis cofondateur de EvoDev, qui est une agence en fait Bubble de développement en no-code du coup.
Ok, top, on va avoir largement l'occasion de revenir un peu ce que vous faites et les particularités de ton activité. Avant qu'on rentre là-dedans, c'est quoi toi ta définition du no-code ?
La grande question auquel tout le monde va répondre. Moi, je dirais no-code. J'avoue, j'ai une définition assez simple. En fait, le no-code, c'est juste quand tu ne tapes pas des lignes de code. Je pense que quand tu fais du développement, il y a deux grandes choses. Tu as la partie 1, c'est les lignes de code, justement. C'est le côté un peu écriture du truc, quoi, le langage. Et tu as le côté logique. Donc, je pense que le no-code, en fait, ne perd pas toute la partie logique du code. Par contre, il s'affranchit merveilleusement bien de toute la partie langage. J'ai un bon point pour ça, par exemple, c'est une métaphore, c'est un peu comme si tu sais très bien ce qu'est un oiseau, mais tu sais pas l'écrire, tu vois. Bah, je pense que le code, no code, c'est un peu ça.
Ok, intéressant. Comment t'en es venu, toi, à t'intéresser à ce sujet-là ?
Alors nous, en gros, c'est parti de MakerPad, le bon Ben Tossel aux États-Unis, qui nous a un peu mis le pied là-dessus. En gros, on a vu ça dans un post de Indie Hackers. Il avait posté un sujet sur Indie Hackers, du coup, on l'a découvert comme ça. Et chemin faisant, bah évidemment, MakerPad, on est arrivé au no-code et on a commencé à s'y intéresser.
Mais toi, tu gravitais un peu déjà dans cet univers-là de la création d'outils. Tu étais déjà freelance à l'époque. C'est quoi un peu ton parcours finalement qui t'a amené à découvrir MakerPad ?
Ouais, découvrir Indie Hackers et tout. Bah, moi, en gros, je suis tombé dans l'entrepreneuriat déjà en études. J'ai monté en fait à la fin de mes études une première boîte. Qui était une boîte dans le jeu vidéo, donc d'ailleurs qui était assez liée au développement. Donc on faisait en gros des jeux vidéo pour les marques de luxe, pour les aider sur le... En gros, c'est une méthode de marketing un peu différente, quoi, en gros.
D'accord,
qui était tournée autour du gaming. Et du coup, ça m'a mis le pied un peu dans le monde du développement pur. Donc là, pas no code encore, même si, l'air de rien, je pense qu'on y reviendra, parce que c'est un sujet intéressant. Le jeu vidéo est très précurseur dans le domaine du no code, pour le coup.
Ouais. C'était quoi ? C'était des formats publicitaires un peu différents, beaucoup plus interactifs et des vrais jeux, mais un peu en format pub, quoi, c'est ça ? C'est ça un peu le principe ?
Ouais, j'ai un exemple suivant. On a bossé par exemple avec Dior pour l'aéroport de Shanghai. En gros, il y avait des grandes tablettes à l'aéroport de Shanghai sur lesquelles les gens pouvaient jouer à un mini-jeu. C'était un jeu tout bête où tu pouvais collecter des produits en fait dans un panier. C'était pour une opération promotionnelle. Et en gros, si tu gagnais le jeu, tu avais le droit à une petite réduction en magasin. Ça, c'était une première itération.
D'accord.
Après, on a bossé sur d'autres sujets avec Prada, etc., par exemple. Mais ouais, en gros, ça tourne autour de ça.
Ok, donc ça, c'est une aventure qui s'est arrêtée. Mais tu disais que pendant cette aventure-là, tu as quand même déjà un peu touché au no-code parce que le jeu vidéo, c'est une industrie un peu... en avance finalement sur ces sujets-là, c'est ça que tu dis ?
Ouais, bah, notamment Unreal, le moteur Unreal Engine, ils ont un système qui s'appelle le Blueprint qui te permet justement de purement coder sans coder.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, c'est vraiment le moteur graphique un peu qui fait tourner énormément de jeux vidéo très connus en fait aujourd'hui. C'est un peu le moteur de référence, quoi, clairement. Quoi. Et donc, ils ont, eux, des fonctionnalités qui te permettent de t'en servir sans coder, c'est ça que tu dis.
Ouais, t'as complètement un système, en fait, de fonctions de drag and drop que tu relis avec des petits fils, en gros, et qui font des enchaînements d'actions, tout simplement. Également, bah, les moteurs de jeu, par définition, c'est aussi beaucoup de no-code, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de ce que t'as sur un Webflow, tu vois, ça fait le front, quoi, en gros. C'est-à-dire que tu fais tes graphismes juste en drag and dropant.
Là ça où gère avant, la bah, physique, ça gère tout ça.
Voilà, exactement, tout ça, sans coder, évidemment, à chaque fois. C'est que des paramètres, en gros, que tu rentres dans des interfaces. Unity, maintenant, qui est en train de bosser très, très fort, justement, aussi, sur une nouvelle version de ce concept de no-code dans le jeu vidéo. Donc, c'est un truc qui existe depuis très longtemps et où il y a des investissements très massifs de la part des boîtes de jeux vidéo pour faire en sorte que ça soit accessible et no-code.
C'est vrai que j'avais jamais regardé comment fonctionnait un moteur comme Unreal, tu vois, en me disant que c'était des fonctions qu'on donnait aux développeurs pour s'en servir, mais en fait, ça va plus loin que ça. Tu as quelques paramètres à rentrer et ça te gère le cœur un peu de ton jeu, quoi. C'est intéressant, ok, d'accord. Donc toi, tu viens de là, et puis bon, c'est une aventure qui s'arrête, comme ça arrive parfois dans l'entrepreneuriat, quoi, tu vois. Et comment est-ce que du coup, t'en arrives après à la suite et à aller découvrir MakerPad chez IndieHacker alors?
En gros, à la base, normalement, il n'y avait pas grand-chose qui allait me ramener vers MakerPad, normalement, parce qu'en fait, quand on finit cette aventure, je finis mes études, je me dis, allez, calmons-nous un peu, posons-nous, je rejoins une boîte de conseils très cool, où je bosse dedans, et je me dis, on raccroche un peu l'entrepreneuriat un petit moment, et on s'y remet plus tard. C'est un truc où je me suis dit, j'y reviendrai forcément, mais je ne savais juste pas trop quand. Le problème, c'est que je pense que j'avais été piqué un peu trop fort par la fièvre du truc, et du coup, j'y suis revenu très très vite. Et ce qui s'est passé, c'était, je crois qu'en gros, je regardais des vidéos de YC.
Donc Y Combinator, pour ceux qui
Ouais, de Y Combinator, en gros, un peu parce que YouTube me le recommandait, tu vois, entre guillemets, la puissance de l'algorithme. Et du coup, je suis retombé un peu dedans à regarder, mais vraiment au début, pas du tout en me disant je vais monter un business et tout, tu vois, juste en mode parce que ça me passionne et que je trouvais ça cool de regarder ça, plutôt de me faire un Netflix, quoi.
Ouais.
Et chemin faisant, je tombe sur quelque chose, un point du fondateur de IndieHackers. Je finis sur IndieHackers, je commence à lire un peu IndieHacker qui est en fait un espèce de grand blog où des entrepreneurs du monde entier racontent leur aventure. Et je trouvais ça trop cool, en fait, juste en mode de lecture du dimanche, comme ça, c'était marrant.
Et c'est surtout les entrepreneurs un peu solopreneurs et qui montent leur boîte en bootstrapant, comme on dit, donc c'est-à-dire sans forcément aller de lever de l'argent et tout, même s'il y en a quelques-uns qui le font quand même. Et beaucoup de contenu hyper intéressant. Il y a un podcast aussi que je recommande, beaucoup de témoignages, effectivement, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Ouais. Donc toi, t'es tombé là-dessus, finalement, via Y Combinator, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Je suis tombé là-dessus via Y Combinator, et puis après, chemin faisant, IndieHackers, et je suis tombé sur MakerPad. Et en gros, on était avec Louis Vera, du coup, mon associé, qui tombe aussi sur ça. On tombe un peu dessus un peu en même temps. Je crois qu'il avait posté un truc qui avait été très, très vu sur. Donc, il avait été mis un peu en avant sur IndieHackers. Mmh. Et on commence à en parler. On se dit, c'est trop cool, c'est incroyable ce truc. Et je crois qu'à l'époque, on découvre ça avec Glide. Et on se dit, mais c'est ouf, c'est trop stylé ce truc. C'était les tout débuts de Glide. D'ailleurs, je pense que ça sera intéressant de revenir dessus parce que quand tu vois Glide, ce que c'était au début et ce que c'est aujourd'hui, tu te dis qu'est-ce que sera le no-code dans 2 ans, parce que c'est quand même incroyable. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre le pied dedans et à suivre un peu les tutos de MakerPad. Il a fait un plan lifetime vraiment pas très cher à l'époque. On s'est dit, allez, vas-y, on l'achète et on verra si on l'utilise plus tard. Puis au final, 2 jours plus tard, on était dessus. Et puis on a commencé à tomber amoureux de ce truc-là et on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on ferait pas un business autour de ça? Et c'est là que c'est arrivé.
Donc ce business, aujourd'hui, c'est EvoDev. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qu'est EvoDev et ce que vous faites?
Ouais, en gros, pour t'expliquer le fait de pourquoi EvoDev, en gros, premier truc qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire un MakerPad français. On a fait nos bons entrepreneurs classico en mode tu reprends un truc américain et tu le refais en France, c'est le meilleur moyen de s'entraîner.
Copycat.
Exactement, on a assumé le truc en mode copycat pur. Et en fait, chemin faisant, donc on a eu des premiers utilisateurs, on a prévendu à peu près 1000 euros de formation à l'époque. Et on s'est dit, en fait, on a voulu faire un mix entre MakerPad et Peter Levels, qui avait fait une série de 12 mois, 12 startups, une startup par mois. On s'est dit, mais attends, ça c'est parfait en no-code. Tu vois, une startup par mois, en vrai, en code, nous, c'était juste mort de chez mort. Par contre, en no-code, c'était carrément jouable. On s'est dit, tiens, vas-y, on va faire ça. Et on se filme, on le documente et on le distribue en mode tuto. Et du coup, c'est parti de là. On a fait ça genre 4-5 mois. Et au bout de 4-5 mois, on avait pas mal de gens du coup qui nous suivaient. On avait quelques gens qui nous suivaient. Et beaucoup se sont mis à nous demander de... En fait, ils avaient commencé des apps. Et la partie un peu technique de fin d'app, des fois où tu sais, t'as les features les plus avancées où tu galères à les faire. Ils nous ont dit, est-ce que je peux vous payer et vous le faites en fait.
Okay.
Et on s'est dit, tiens, en vrai, pourquoi pas. On l'a fait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super kiffant. En fait, on a adoré le faire. Là où tu vois, rédiger des pages de tuto et se filmer pendant des heures, c'était pas forcément notre kiff. Au final, on s'est rendu compte, enfin du moins on préférait largement créer les produits, les voir se lancer et les voir se poursuivre, etc. Et du coup, on a commencé à réfléchir, à se dire, tiens, mais est-ce qu'on ferait pas en fait une agence genre full no code? Et du coup, on est parti avec une première agence qui s'appelait Copilot, qui était à l'époque une agence multi-tools. Donc en fait, on faisait du no code mais sur tous les tools possibles. Donc en gros, un entrepreneur arrivait, on était dans pas mal d'incubateurs d'ailleurs, on faisait des OH, et il nous disait, bah voilà, moi je veux résoudre tel problème, et on lui disait, bah ok, on va mettre un Zapier, on connecte un Airtable, on fait un Webflow, on fait un member stack connecté, et boum, c'est parti, tu vois. Du coup, on a fait ça, et chemin faisant, on a fait du coup une transition qui a été de passer uniquement sur du full bubble. Parce que comme on aime bien le dire chez nous, c'est tous les chemins mènent à Bubble, et franchement, c'est un peu vrai. Et du coup, bah, c'est devenu Evodev, qui est une agence full Bubble aujourd'hui.
Ok, d'accord, très clair. Quand tu dis tous les chemins mènent à Bubble, grosso modo, c'est quelque chose que vous avez un peu découvert finalement au fil de l'eau, c'est ce que tu disais, mais... C'est vraiment parce que c'est l'outil le plus complet, celui qui apporte aucune limite dans le projet de vos clients, ou est-ce que c'est aussi un peu le marché finalement qui a dicté ce choix? Est-ce que tu sens que les gens arrivent et vous demandent particulièrement du Bubble, ou est-ce que c'est plus vous qui êtes arrivé un peu à cette conclusion et qui aujourd'hui proposez Bubble à vos clients?
Alors, t'as un double effet, les deux sont vrais en fait. La première étape, c'est un, tu peux quasiment tout faire avec Bubble, ce qui te permet de master un outil. Et tu peux tout faire avec le même outil. Là où, en gros, si tu te mets à faire du Glide, du Webflow et tout, il y a plein de cas d'usage où ton Glide ne va pas marcher ou ton Webflow ne va pas marcher.
Je comprends.
Donc, en gros, ça t'oblige à masteriser plein d'outils. Et c'est un truc au début de la vague no-code, je pense que les gens ont vachement sous-estimé l'expertise que ça demande, en fait, d'être bon sur un outil no-code. Et le temps d'investissement, ça demande pour être bon sur un outil no-code. Quand tu dois en apprendre 15... ça devient quasi mission impossible, ou alors il faut beaucoup de gens qui soient chacun expert sur un outil. Là où quand tu es master sur Bubble, bah, c'est réglé. Et le deuxième effet aussi, tout bête, c'est que bah, Bubble, c'est l'outil le plus dur à maîtriser, et que toi, en tant qu'agence, les gens ils viennent te voir quand ils n'arrivent pas à le faire. Si tu vends du Glide, je ne pense pas que c'est impossible de vendre du Glide, mais c'est quand même vachement plus dur, parce que le trois quarts du temps, l'entrepreneur, il va réussir à faire son Glide tout seul. Ouais. Et en gros, s'il ne peut pas aller plus loin, ce n'est pas un problème de « il ne sait pas faire », c'est juste un problème que la tech s'arrête là, entre guillemets.
Ouais, je comprends, très clair. C'est en gros, tu te crées un peu ton avantage concurrentiel ou vraiment la valeur, finalement, en travaillant sur un outil plus complexe qui est plus difficile à maîtriser pour tes clients, et donc ils ont davantage besoin de toi, quoi. C'est qui, justement, tes clients aujourd'hui, alors ?
On a démarré en gros sur les entrepreneurs, donc on a fait beaucoup, donc tout ce qui était profil dans les incubateurs. On avait aussi pas mal de gens qui étaient des directeurs d'entreprise, en fait, qui sont des gens qui ont déjà des entreprises ou des gros freelances qui veulent monter soit des projets annexes, soit des projets pour booster leur activité principale.
Ouais.
Donc ça a été vraiment notre première branche aujourd'hui. On a accompagné à peu près une quinzaine de clients de ce profil-là. Et là,
qui avaient déjà une activité et qui souhaitaient transformer une partie de cette activité en produit grâce au no-code.
Ouais, le ratio, je dirais, on a dû en avoir, genre, je pense, 5 serial entrepreneurs qui partaient en gros de zéro avec une idée et qui voulaient monter un projet. Et on en a eu une dizaine qui étaient plutôt soit des gros freelances, soit des gens qui avaient déjà une activité et qui voulaient booster en gros leur activité.
On n'a pas dit, mais quand est-ce que vous avez vraiment lancé Evodev ? Ça date de quand exactement ?
Evodev, il a un an avec nom okay. Evodev. L'entreprise Copila, donc on fait de l'agency depuis à peu près un an et 4 mois. Quoi, un truc comme ça.
Ok, donc grosso modo, en un an, vous avez accompagné 15 clients, ce qui est déjà, tu vois, il faut remettre ça dans le contexte. Pour une activité d'agence qui démarre, c'est quand même un premier succès. Quoi. Et sur ces 15 clients, du coup, tu en as 5 peu entrepreneurs qui avaient besoin que vous les accompagniez pour créer leurs produits. Et des freelances ou TPE, PME qui, elles, voulaient lancer leurs produits à partir d'un pan de leur activité qui était peut-être plus du service avant, quoi, et que vous avez accompagné pour là-dessus, quoi.
Moi, je peux te donner même un cas d'exemple pour l'illustrer bien. En gros, par exemple, on a un client qui s'appelle Call of Success. C'est en gros deux personnes qui sont des freelances très très expérimentées. Ça fait 10 ans en fait qu'ils font du freelance dans le domaine pour faire du matching, en fait, trouver des call centers pour les entreprises.
D'accord. Okay.
Et il s'avère qu'en fait, ils avaient besoin, donc eux, ils connaissent très bien le marché, ils connaissent très bien les problématiques, tu vois, la partie métier, il n'y a aucun souci. Ils avaient en gros besoin d'une tech pour grossir leur activité, c'est-à-dire automatiser certaines parties et organiser aussi un peu certaines parties, tu vois, une sorte de CRM un peu custom.
Ouais.
Ensuite, ils ont des projets potentiellement de distribuer cette tech. Donc, c'est-à-dire, ils se disent, si cette tech, elle marche pour nous et elle nous permet, nous, de mieux faire notre travail et d'aller plus vite, Ils disent on pourra peut-être la distribuer à d'autres freelances comme nous qui sont intéressés, et là du coup plus sur un modèle un peu SaaS product. Okay. Ça, c'est typiquement, tu vois, un exemple très classique qu'on a sur un entrepreneur, sur des freelance entrepreneurs qui veulent booster leur activité.
Ça, c'est intéressant, hein, parce qu'effectivement les activités de service, par définition, elles sont limitées, quoi, parce que en fait ton activité elle est immédiatement corrélée au temps dont tu disposes pour aller travailler avec tes clients. Et on est des humains, donc on a 24 heures dans la journée. Dans ces 24 heures, il faut qu'on dorme un peu, et il n'y a que 7 jours dans la semaine. Donc en fait, tu es forcément capé. Et après, si tu veux grossir ton activité, il faut que tu rajoutes d'autres humains avec toi à travailler, ou alors que tu augmentes tes tarifs. Mais après, faut que tu trouves un peu l'adéquation entre les tarifs et les valeurs, quoi. Enfin, entre les tarifs et la valeur que tu apportes à tes clients. Et donc ça, le fait de se dire, plutôt que de devoir soit embaucher plus, soit vendre plus cher, ce qui a dans les deux cas des limites, eh bien en fait je vais automatiser une partie de mon activité. Ça, c'est quand même un élément hyper important et hyper intéressant pour toutes les activités de service dans le no-code, de pouvoir se dire que grâce au no-code, je vais passer à une étape d'après et je vais faire sauter ces limites en fait, finalement en industrialisant mon activité, quoi.
Ah bah c'est un truc qui ça te permet de déverrouiller un aspect de scalabilité en gros qui avant était un peu inaccessible. Là, tu vois, pour donner un exemple de cas concret de ce qui les aide à être plus scalable, c'est que le système, par exemple, quand un client vient, ça va le qualifier. En fait, il y a une série d'une à peu près 25 questions en fait qui sont posées au client. Et ensuite, eux, ils ont deux, trois petits systèmes d'options un peu, et ça génère automatiquement. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est juste en fait un Zapier connecté à un Google Doc relié à Bubble en fait, qui va ensuite générer, pré-remplir automatiquement un cahier des charges que affinent et peuvent vendre, mais ce qui leur accélère grandement la vitesse d'exécution et qui détériore pas du tout la qualité du livrable en fait. Donc c'est pratique.
Génial. Ouais, et plutôt que de passer plusieurs jours à écrire ce cahier des charges et tout, en fait tu l'as généré automatiquement, quoi.
Ouais, exactement.
Top. Donc
après,
ça c'est.
Il retravaille quand même, hein, mais.
Ouais, bien sûr, j'imagine qu'ils se contentent pas après de faire send, et sinon tu l'aurais automatisé aussi, tu vois. Mais en tout cas, ça leur fait une bonne base de travail pour gagner beaucoup de temps. Et donc, sur une journée, là où tu pouvais peut-être traiter 3 clients avant, tu peux en faire 15, quoi, parce que du coup, t'as automatisé beaucoup de choses, quoi. Intéressant. Et côté plutôt entrepreneur, des gens qui arrivent avec une idée de produit, tu peux aussi un peu illustrer sur les types de projets sur lesquels vous avez pu travailler?
Ouais, carrément. Alors déjà, nous, il y a un premier truc qu'on s'était mis un peu en tête dès le début, c'est on s'est dit on veut faire super attention à pas accepter tout le monde en fait. C'est bizarre à dire, mais dès le début, on avait déjà en tête qu'il fallait faire attention de sélectionner les bons clients. Pas forcément pour nous, hein, mais surtout pour eux en fait, qu'ils soient satisfaits à l'arrivée. Et maintenant, on l'a d'autant plus ce truc-là. On est d'autant plus, regardant sur ça. On fait très attention en fait que le client déjà, il ait une excellente compréhension de sa problématique. Est-ce qu'il a parfaitement compris ce qu'il veut résoudre? Est-ce qu'il a vérifié, limite un peu, qu'il a un marché? Nous, on aime beaucoup, d'ailleurs, c'est quasiment le cas de tous ceux qu'on a eus. Il y a un seul cas où c'était pas vrai. Mais sinon, dans tous les cas, les clients avaient déjà un premier proto un peu eux. Souvent qui était fait, tu vois, avec un Airtable. On en a eu qui avait déjà un mini glide, en fait, déjà d'avance. Donc ça, c'est parfait, parce que ça permet eux d'avoir, eux, ils ont pu mesurer, en fait, l'attrait des clients déjà de base. Et du coup, quand ils investissent sur nous en tant qu'agence, ils savent en fait qu'ils ont un potentiel retour sur investissement qui a une forte chance d'arriver, tu vois. Et c'est pas purement en mode gamble, tu lances les dés, quoi.
Donc c'est, ça, je trouve que c'est clé, hein. Sincèrement, j'avais cette discussion là aussi dans un précédent épisode, mais je trouve que aujourd'hui, la communauté no-code, en général, je trouve qu'elle est très, très orientée outils. Et évidemment, c'est important parce que il faut que tu puisses produire, quoi, tu vois, ce que tu as en tête et tout. Mais on oublie souvent ce qui vient avant la production, et finalement, toute la validation de ton idée, le fait d'être allé chercher un peu ton marché, d'avoir déjà un peu expérimenté. Et c'est comme si on revient au code, c'est comme si, en fait, le premier truc qu'on faisait, c'était d'aller choisir le bon langage de programmation, le bon framework. Tout de suite, on va d'abord choisir son hébergeur. Est-ce qu'on va aller chez Azure ou AWS avant de se demander sur quoi on va travailler? Ça n'aurait pas de sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'univers no-code, on a un peu ça. C'est-à-dire qu'on parle énormément d'outils. On parle énormément de Bubble, de Glide, d'Airtable. Et en fait, on revient pas souvent sur... En amont, finalement, comment est-ce que tu fais pour concevoir un peu ton projet, ton produit, etc. Et après, tu vas aller choisir la bonne techno. Et je trouve que du coup, vous avez une approche intéressante de dire, on préfère travailler avec des gens qui ont déjà justement eu toute cette démarche en amont, où on va venir nous les accompagner sur la production parce que c'est là où on a notre valeur ajoutée. Mais la garantie du succès de ces projets, c'est justement quand on a pu faire tout ce travail en amont de validation un peu de son marché, d'aller trouver la bonne idée, d'expérimentation. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler, finalement, techniquement parlant, quoi.
Ouais, puis ça, c'est un cas en plus qui est ultra vrai aussi dans les entreprises. Enfin, c'est-à-dire que eux, littéralement, en fait, que tu le fasses sur du Bubble ou autre chose, ils s'en foutent.
Ouais,
c'est l'output qui les intéresse. Et du coup, ils sont beaucoup plus focus sur le fait que bah, le no-code, ça va très vite. Ça, ça les intéresse. Le fait que ça se fait avec du Bubble ou que tu l'aies fait en Ruby, limite, ils s'en foutent un peu. Ça a quelques incidences, mais tu vois, c'est très secondaire. Donc, ouais, ça, c'est vrai pour les entrepreneurs. Et je pense que c'est d'autant plus vrai ce côté, vous focussez pas non plus uniquement que sur la tech pour les entreprises. Clairement.
Si toi, du coup, t'accompagnes tes clients un peu à transformer une partie de leur activité en produit, tu vois, ces clients un peu service, freelance, etc., est-ce que ça veut dire que c'est aussi quelque chose que tu souhaites faire pour Evodev? Parce qu'aujourd'hui, bah, vous avez une activité de service, du coup, hein, vous êtes, tu le dis, agence, vous accompagnez vos clients sur une partie no-code. Est-ce que tu cherches, toi, aujourd'hui, à productiviser une partie de ton activité agence, à transformer ça en produit? C'est quelque chose sur lequel vous avancez aussi?
Ouais, carrément, nous on est hyper fan de ce mouvement-là, justement, bah, notamment avec Minipixel, avec Robin là, de Minipixel, qui parle beaucoup de productize, justement. C'est un truc qu'on suit pas mal, parce qu'on trouve ça super intéressant. Et on y croit beaucoup, tu vois, ce côté un peu. Je trouve que c'est un peu embêtant dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, t'as vachement un côté. Soit t'as fait un product, soit t'as pas fait un product. Mais tu vois, t'as le clan product et t'as le clan pas product. Ouais, et t'as l'impression que quand t'es hors du clan product, t'es condamné à tout jamais aller regarder de l'extérieur de la pièce, tu vois, s'éclater entre eux et toi, c'est mort. En vrai, je pense que c'est la barrière n'est pas du tout aussi tranchée que ça, tu vois. Et notamment, du coup, les productized services, c'est un peu cet entre-deux de services qui essaient de devenir des products.
Bah, ou alors, la barrière, elle est de moins en moins importante. Mais elle a quand même, en très longtemps, été hyper franche, tu vois. Enfin, moi, pour le coup, je viens du produit depuis toujours, tu vois, dans le SaaS et tout. Et je suis très copain avec plein de gens qui ont monté des agences de marketing, de com, etc. Mais clairement, on faisait pas du tout le même métier. On n'avait pas les mêmes problématiques de croissance, etc. Et un autre élément, au-delà de la croissance, c'est surtout la récurrence des revenus, qui est quand même un élément aussi souvent très important dans l'univers produit, tu vois. Une activité d'agence, bah, t'as un projet avec ton client. Une fois que le projet est terminé, le client, il te paye plus, tu vois, à moins que tu rentres dans des logiques de maintenance, tu vois, ce genre de choses. Mais là où dans le produit, si tu veux continuer à utiliser le produit, tu dois continuer à payer, tu vois. Donc, tu as aussi quand même des logiques, tu vois, comme ça, de génération de revenus. Et ça, effectivement, cette barrière, elle est en train de devenir de plus en plus fine, quoi, finalement.
Ouais, c'est en train de bouger. Après, nous, tu vois, par exemple, sur la partie un petit peu product, tu vois, c'est quelque chose sur lequel on va aller, c'est-à-dire qu'on va faire de Evodev de plus en plus un produit. On va avoir cette notion un petit peu, tu vois, d'expérience client, d'onboarding client, de parcours utilisateur qu'on n'a pas aujourd'hui dans un service, enfin, qui est beaucoup plus abstraite, quoi. Avec beaucoup de. Le gros intérêt de ça aussi, c'est pouvoir traquer un peu de la donnée sur comment est-ce que tes clients vivent le parcours. Et ça, c'est hyper important parce que nous, aujourd'hui, bah, tu l'as beaucoup moins quand ton parcours se résume à des mails et des appels, c'est pas du tout pareil. Par contre, tu vois, par exemple, pour être hyper honnête, on n'a pas encore trouvé le hack qui nous permettrait de vraiment productize. Le principe d'un productize, c'est quand même de dire, tu as une offre packagée qui est mensuelle, normalement, qui est en fait recurring, comme tu disais, tu vois, c'est un truc qui est récurrent. Nous, aujourd'hui, c'est un truc qu'on n'a pas encore hacké, tu vois, on commence à aller vers ça, mais honnêtement, on ne sait pas parfaitement le faire. Donc, on essaie de tendre vers ça, mais pour l'instant, on est déjà sur la partie product, rendre un peu Evodev plus comme un... faire devenir un peu Evodev un product. Pour le coup, c'est un truc qu'on sait faire. On fait ça tout le temps, de créer des products. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est un avantage qu'on serait bête de pas utiliser, quoi.
Mais ça se matérialise comment alors, du coup, concrètement?
Bah, là, concrètement, on est en train justement de plancher sur le cahier des charges. Tu vois, bah, juste avant, j'étais en train de plancher avec le chef de projet sur le cahier des charges un peu de ce truc-là. Aujourd'hui, la première partie qu'on va un petit peu rendre product normalement, c'est tout le process de qualification du client, en fait. Donc, lui permettre son expression de besoin, toutes ces choses-là, ça va être beaucoup plus intéressant que ça soit centralisé dans un espace un peu client qu'il peut retrouver et ensuite lui faire tout un parcours pendant le process de production, etc. En fait, c'est l'accompagner. On se rend compte qu'un client, t'as deux éléments qui font que ça marche bien. C'est t'as parfaitement compris son besoin initial et tu y réponds très bien. C'est vraiment la partie qualification qui est hyper importante. Et ensuite, t'as tout l'accompagnement dans le process. C'est-à-dire qu'en fait, le client, c'est un peu sur autopilot. C'est un peu sur autopilot quand il te rejoint, tu vois, ça marche tout seul. Par contre, il a besoin d'informations, il a besoin de savoir comment ça avance, où est-ce qu'il en est dans ses jalons de trucs de pipeline, etc.
Quels éléments de validation lui doit éventuellement te fournir, enfin, voilà.
Exactement, c'est ça, ouais. Toutes les actions. Mais en vrai, c'est rien de révolutionnaire, c'est incroyable. C'est juste un côté en mode fournir une expérience client ultra smooth, quoi, ultra fluide. Et pour faire ça, bah, en général, on est à une époque où ça passe par un product. Tu vois, on est tous aujourd'hui habitués à interagir avec nos produits, enfin avec des produits en fait, on interagit avec des produits, et quand t'as pas de produits, ça crée un truc bizarre, t'as l'impression qu'il manque un truc, quoi. C'est ce qu'il faut qu'on crée.
Ok, intéressant. C'est quoi un peu l'ambition, vous souhaitez apporter ces produits-là là, à court terme, c'est quoi un peu les projets pour vous là-dessus?
Bah, no code MVP style, hein, donc on est en train de se dire, faisons une version minimaliste, au début il y aura pas grand-chose, ça sera un truc assez simple, mais je pense que ça va être mis en place très rapidement, c'est une question de... Je pense que ça sera genre vers... Je ne vais pas donner de date, tu vois, mais genre, je pense que ça sera vers fin mars, dans ces eaux-là, tu vois. On va se laisser genre un mois à peu près, comme on a un peu d'autres sujets avec toute la finalisation de tous les process, etc., qu'on a fait là en ce moment. Mais je pense que ça va être un sujet genre à court terme qui va arriver vite. Et ensuite, on le fera évoluer au fur et à mesure, hein, comme on préconise à nos clients et comme on va se le faire aussi pareil pour nous, parce que c'est la bonne façon de le faire, on pense.
Bon, top, très clair. Bah écoute, tu auras l'occasion de revenir nous en parler, voir comment ça a aidé à transformer un peu votre activité et à la rendre plus produit, quoi, dans les prochains mois, quoi. Au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer là, de ce que tu fais toi dans l'univers no code, c'est quoi pour toi les autres grandes tendances que tu observes un peu?
Bah là, je dirais déjà le côté MVP, ce côté un peu minimaliste en fait dans les lancements. Je pense que ça mélange plein de trucs. Ça, en gros, c'est la data. En fait, la data est devenue vraiment hyper clé. Je pense que ça a mis son temps à rentrer dans la tête de tout le monde. Mais maintenant, c'est quand même vachement diffusé dans les entreprises. T'as vraiment ce côté un peu en mode data first, tu vois. Alors qu'avant, c'était vachement moins trivial. Donc ça, je pense, ça pousse énormément les gens à se dire ce qui est important, c'est d'obtenir de la data. Comment on obtient de la data, c'est en testant des choses. Et du coup, comment est-ce qu'on teste des choses? Eh ben, faut pas avoir peur de faire des trucs minimalistes qui peuvent se foirer, parce que c'est pas grave, la data, elle t'apporte des choses intéressantes, qu'elles soient gagnantes ou perdantes, en fait. Ouais. C'est le seul cas où tu perds jamais, en fait. Et je pense que du coup, ça, c'est un trend de se diffuser partout, et c'est ce qui fait, d'ailleurs, à mon avis, le no-code n'est pas seul responsable de son succès. C'est cette conjoncture entre data, tester, plus le fait que, bah, by the way, il y a des outils hyper cool qui permettent d'avoir de la data et de tester rapidement, bah, tu vois, la conjoncture est parfaite, quoi.
Ouais, je comprends. Ok. Pour compléter ce que tu dis, parfois je mets un peu une petite réserve quand même là-dessus. Je suis clairement d'accord. En fait, on expérimente plus vite, et ça, c'est un élément qui est hyper positif. Mais j'ai quand même la sensation que parfois on se lance un peu trop vite dans la production, et qu'en fait, tu peux même être encore beaucoup plus MVP dans ta démarche, en allant juste parfois avoir des conversations, en postant un truc en ligne, en regardant comment les gens réagissent. Tu vois, j'ai fait un épisode avec Johan Lopez qui a lancé Snowball, la newsletter Snowball. Et en fait, lui, son MVP, vraiment minimum, c'est qu'il avait fait un post LinkedIn en disant, bah, ceux qui sont intéressés par ce projet, mettez un commentaire, tu vois. Et en fait, il n'avait même pas déjà son système d'inscription à la newsletter, il n'avait rien du tout. Il a eu genre 1000 commentaires, tu vois. Et il s'est dit, ok, ça intéresse vraiment les gens, quoi. Et s'il avait eu 3 commentaires, bah, il n'aurait même pas été voir quels sont les bons outils newsletter, quels sont, tu vois, pas besoin, tu vois. Et parfois, je trouve que puisque les outils rendent le truc hyper facile, alors, à part peut-être Bubble, qui est effectivement un peu plus compliqué que les autres, mais qui est aussi plus complet. Mais tu parlais de Glide, par exemple, bah, tu vas avoir plein de gens qui, boum, vont se lancer directement dans la création de leur app, sans savoir si, finalement, ça peut intéresser des gens. Et OK, on va l'apprendre, tu vois, après, en mettant ça entre les mains des utilisateurs, mais tu peux même avoir une phase encore en amont d'apprentissage, d'échecs très tôt finalement aussi, avant même de te lancer dans la production. C'est quoi un peu ton avis, toi, là-dessus?
Alors, je suis 100% d'accord, et je pense que je vais même extrapoler le truc en disant, je pense que c'est tout le temps, il faut tout le temps faire ça, ce que tu viens de dire, genre tout le temps, c'est une règle de base. Je donne des cours dans une école de commerce justement un peu avec ce sujet, et le meilleur MVP, tu vois, des fois on a un peu, au début d'ailleurs, c'est très drôle ce truc là parce qu'au début je leur apprenais comment faire une landing page sur UMSO, qui est l'ancien Landen. Et un jour, tu vois, je me dis, attends, en vrai, concrètement, sur le UMSO, tu fais quoi? Tu fais une proposition de valeur, une proposition de value, t'expliques vite fait en gros, genre, quel problème tu veux résoudre, t'expliques à peu près comment tu vas le résoudre, et tu demandes un mail aux gens pour voir s'ils sont intéressés. Mmh. Concrètement, quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, tu peux faire exactement la même chose, ouais, t'as pas besoin d'un UMSO, tu vois. Mmh. Donc déjà, je pense que clairement, la meilleure landing page que tu peux faire au début, c'est un post sur les réseaux sociaux. Ça, je suis complètement d'accord. Et la deuxième étape, c'est parler avec tes users.
Ouais.
Mais parler avec tes users avant même de commencer à ouvrir Glide, tu vois, clairement, ouais, c'est hyper important. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours avec nos clients, on leur dit bien, et c'est pour ça qu'on s'assure que nos clients comprennent très bien les problématiques du marché avant de bosser avec eux. Mmh. C'est que quand on passe à la phase de maquettage qui est avant de mettre les mains sur Bubble, donc on va maquetter tout le produit, on a intérêt à ce moment-là à être sûr et certain que le client, il a déjà parlé plein de fois avec des utilisateurs pour que les maquettes qu'il imagine, elles soient pas uniquement de son ressenti à lui, mais du ressenti des users, en fait.
Ouais, clairement. Mmh.
Donc ça, pour moi, t'as deux cas. T'as le cas où t'as l'entrepreneur qui connaît le problème, en fait, qui a vécu le problème, et du coup, ça aide vachement, parce qu'il est un peu son propre user, même s'il faut faire attention à ça, parce que des fois, tes attentes sont pas celles des gens au global. Et t'as le cas, en gros, d'une personne qui a des années dans le secteur et qui connaît très très bien le problème et qui, du coup, va très bien le matérialiser. Mais clairement, t'as trois grandes phases. D'ailleurs, pour moi, même, je dirais, t'en as carrément quatre. T'as une phase de prototypage après, qui va être une phase vraiment où tu fais une ébauche très très, qui est même pas en fait. Pour moi, il y a une grande différence, il y a un truc qui est très difficile, on a pas mal de mal, je trouve, dans l'écosystème à définir prototype, MVP, c'est quoi la différence. Nous, on a une manière assez simple de le définir, c'est qu'un prototype, c'est un produit que tu mets dans les mains d'un user. Par contre, le user peut pas l'utiliser tout seul en général. C'est-à-dire que si t'as pas quelqu'un à côté de lui qui va lui, quand il trouve pas un bouton, qui va lui dire, ah bah c'est ce bouton-là qui te permet de faire ça, en gros, il peut être coincé. Normalement, le MVP, si t'as personne autour de toi et que tu utilises le truc comme un user classique, t'es censé pouvoir t'en sortir normalement à peu près, tu vois, globalement.
Et ça doit t'apporter de la valeur quand tu t'en sers, du coup.
Exactement, c'est ça.
Okay.
Et du coup, les quatre étapes, enfin, toutes les étapes sont importantes, quoi, clairement.
Ouais, ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a souvent tendance, je le disais tout à l'heure, à parler beaucoup d'outils, à se lancer directement dans la production, parce que la barrière à l'entrée sur la production, elle a vraiment baissé grâce au no-code, et à oublier un peu ces étapes-là, quoi. Mais pour le coup, ça m'intéresse quand même de savoir quels sont un peu tes outils no-code préférés, parce que ça reste quand même une des composantes importantes une fois qu'on a passé ces étapes dont on a beaucoup parlé. Je suis content qu'on en parle et je vais militer pour qu'on en parle encore plus dans la communauté no-code, tu vois. Une fois qu'on a passé ces étapes, on doit se lancer dans la production. Toi, tu nous as beaucoup parlé de Bubble, qui est un peu l'outil sur lequel vous êtes spécialisé, mais est-ce qu'il y a d'autres finalement solutions que tu as l'occasion d'utiliser, toi, même à titre perso ou parfois sur des projets? C'est quoi un peu tes outils clés?
Ah oui, complètement. Moi, je suis un ultra lovers militant de Glide.
Ouais.
Je pense que c'est... D'ailleurs, j'ai aucune idée de jusqu'où peut aller cet outil, mais je pense que ça peut être absolument monstrueux parce que, simplement, c'est l'équipe, en fait. Les mecs sont juste incroyables. Enfin, c'est le produit qui a le plus évolué de tout l'écosystème no-code. À une vitesse complètement folle. Enfin, tu te dis, les mecs, c'est qui est derrière ce truc-là? C'est pas possible. Franchement, quand tu vois les patch notes, ça n'a aucun sens. Donc, je trouve ça tout simplement incroyable. Même au-delà de l'outil en lui-même, rien que la vitesse d'évolution, je trouve ça complètement incroyable. Et la justesse des évolutions qu'ils font. Tu vois, à chaque fois qu'ils sortent une évol, tu te dis, mais c'est ce que j'attends. C'est un cadeau de Noël à chaque fois que t'as un patch note de leur truc, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, je crois beaucoup, beaucoup en Glide. Et en plus de la pertinence de l'outil, parce que je pense que c'est un parfait outil pour faire un premier proto, voire même MVP, quand tu te lances, c'est genre hyper bien. Donc je suis super fan de Glide, très facile d'accès, ça permet de faire des trucs trop cool, donc c'est trop bien. Webflow, je trouve ça très bien, super outil. D'ailleurs, on était principalement sur Webflow avant d'être sur Bubble. C'est un super outil, j'ai hâte de voir un peu comment est-ce qu'ils vont faire leur mise à jour avec la partie data logic. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est un peu le grand match Webflow Bubble. Ils ont pris chacun le morceau d'un côté et on va voir qui arrive en premier à la ligne d'arrivée, entre guillemets, d'avoir le master tools qui fait aussi bien le front et le back parfaitement. Donc ça va être intéressant. Et Adalo, j'avoue que j'étais un peu j'aimais bien, et maintenant j'ai un peu plus de mal. Je suis plus Glide, en fait. Si je dois faire, tu vois, une app, je suis plus Glide.
Okay.
J'ai un peu de mal avec Adalo, même si c'est un super outil, mais j'ai un peu de mal avec Adalo. Airtable, super outil qu'on utilise nous en interne pour faire tous nos recettages et tout, c'est hyper puissant. Toutes les collègues de contenu, tu peux l'embed dans plein de trucs et tout, c'est trop bien, c'est ouf. Donc Airtable, super bien. Zapier, super outil. Je sais qu'il y a des grands défenseurs d'Integromat, je suis désolé, mais je trouve ça vraiment plus difficile d'accès que Zapier. Même s'ils sont pas mal améliorés, je trouve Zapier vraiment ultra stylé, sauf quand tu dois faire...
On a fait un débat Zapier versus Integromat dans le No-Code Family Club, donc j'invite les gens à aller s'abonner pour l'écouter. Et bon, on voit les avantages et les inconvénients, tu vois, des deux, et C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup, beaucoup Zapier, mais régulièrement, quand tu écoutes les pros intégromètres, ça donne quand même pas mal envie d'aller regarder plus en détail ce qui s'y passe. Quoi. Au-delà des outils, c'est quoi, toi, un peu tes ressources, tu vois, les blogs, les newsletters, les chaînes YouTube et tout, que tu pourrais recommander pour continuer à découvrir cet univers et continuer à apprendre?
Bah, moi déjà, toi, j'avoue, j'écoute pas mal de Code Family, donc déjà ça. Contournement avec No Code France, c'est une super ressource, franchement. Hyper cool. Digital Wings, super chaîne YouTube, très cool. Thibaut d'AutoTools aussi. AutoTools fait des bonnes vidéos, notamment plus focus sur Bubble et tout en français, c'est cool. T'as No Code Station en newsletter qui est très sympa, qu'on regarde souvent. Et après, t'as toute la partie un peu plus US avec MakerPad, Indie Hackers qui est hyper bien. Et t'as, globalement, t'as 2-3 petites chaînes un peu aussi de tutos qui sont super intéressantes. Il y a notamment, comment il s'appelle déjà, j'ai le nom en tête, c'est nocodebootcamp, un truc comme ça, j'ai plus le nom, enfin bref, à retrouver, mais ouais, en gros, il y a quand même 2-3 ressources intéressantes.
Ça marche. Et au-delà de ces ressources-là, c'est qui un peu les gens, toi, que tu recommandes de suivre dans la communauté? Je sais pas, des comptes Twitter, des personnes sur LinkedIn, qui est-ce qu'il faut suivre?
Bah, Lucien Tavano, c'est un super bubbler qui partage bien ce qu'il fait et tout, donc c'est vraiment cool. Je trouve, alors c'est pas trop no code, mais plus côté entrepreneurial, Peter Level, c'est cool, même s'il est beaucoup moins actif maintenant, mais c'est quand même intéressant. Et après, globalement, en fait, les gens que je citais avant, là, de contournement, Digital Wings, etc., en soi, les founders de ces trucs-là sont cool aussi à suivre. Individuellement, donc globalement je dirais à peu près tout ce patchwork de gens, et puis bien entendu souvent les founders un peu des tools no code, c'est intéressant de voir un peu quelles sont leurs visions, tu vois, qu'est-ce qu'ils partagent, ça peut être intéressant. Et ça, j'ai retrouvé, c'est Coaching No Code Apps et Build Camp, les deux trucs de tuto en anglais, mais qui sont très cool aussi avec AutoTools.
Super. Et toi, du coup, si on veut te suivre et suivre ce que tu fais un peu dans le no code, où est-ce qu'on peut aller?
Bah moi, globalement, je poste beaucoup sur LinkedIn. Je suis un grand... Je vais poster beaucoup. J'ai un peu ralenti ces derniers temps avec tout le taf qu'on avait. Mais là, on va se remettre pas mal. Donc, LinkedIn, en gros, Clément Barbereau sur LinkedIn, pas très dur. Okay. Et sinon, tout simplement aussi la page de EvoDev, qui est aujourd'hui pas hyper alimentée, mais qui va l'être de plus en plus. Donc, ça peut être intéressant de suivre ces deux ans.
Bon, on va aller... On va aller te suivre et suivre EvoDev. Alors, du coup, super. Encore un très très grand merci, Clément, d'être venu dans la No Code Family. Et puis à très bientôt. Alors, du coup,
avec grand plaisir. Merci à toi de l'accueil. C'était top.
Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également rejoindre le No Code Family Club pour écouter des épisodes exclusifs et continuer à apprendre des membres de la communauté No Code les plus inspirants. Alors, pour rejoindre le No Code Family Club, c'est très simple. Rendez-vous sur www.nocode.family. À la semaine prochaine.